Bonjour et bienvenue à l'épisode 86 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Encore un épisode où l'élève dépasse le maître. Même si je ne travaille plus dans l'aéronautique depuis près de 25 ans, autrement dit quand Martial y est entré, je n'ai jamais perdu d'intérêt pour cette industrie, tant du côté constructeur que du côté opérateur. Cette semaine, j'ai réussi, là aussi, à me faufiler dans l'agenda chargé de Martial Missioun, qui est cadre supérieur chez Bombardier Aéronautique, pour échanger avec lui sur l'innovation, sur l'agilité et sur l'excellence dans cette industrie où tout coûte cher et où prendre une décision a des implications majeures. Et j'aime à rappeler que si l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde, c'est d'abord et avant tout grâce à des équilibres subtils dans cette arène. On a vu avec la saga du Boeing 737 MAX qu'un petit déséquilibre peut avoir de très, très lourdes conséquences dans ce domaine. Directeur ingénierie chez Bombardier, Martial Missioun et son équipe aident à développer des solutions techniques et innovantes pour les aérostructures des avions. Martial compte plus de 25 années d'expérience dans des postes avec des responsabilités variées dans l'industrie manufacturière et dans la construction aéronautique, notamment en développement de produits, en soutien aux produits en production et en service, en gestion de projets et en gestion de programmes. Il a travaillé sur plus de 10 programmes d'avions et d'autres grands projets. M. Missioun est diplômé de l'École polytechnique de Thiès au Sénégal et possède une maîtrise en ingénierie de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un MBA de HEC Montréal. Et il est certifié PMP, la certification du Project Management Institute, le PMI. Il est également président du conseil d'administration du Collège Saint-Laurent à Montréal. Bonjour Martial.
Bonjour Jean-François.
Martial, tu connais un peu les thèmes de notre podcast, donc je vais donc les passer les uns après les autres. On va commencer par l'innovation. Pour le commun des mortels, il n'y a rien qui ressemble plus à un avion qu'un autre avion. Hein. Surtout aujourd'hui, presque toutes les architectures sont pareilles. Hein. Depuis la fin du CRJ 200, 700, 900, c'est tous des avions à aile basse avec les moteurs en dessous. Hein. Il n'y a rien qui ressemble plus. Il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits. Elle est où maintenant l'innovation en aéronautique?
Bonne question, Jean-François. Définitivement, tout d'abord, merci pour l'opportunité. Je suis très content d'être ici pour partager ma passion et puis ma modeste expérience dans l'aviation. Donc, parlant de l'innovation, c'est vrai, tu as raison, les avions dans le ciel se ressemblent. Okay? Dans les airs, ça se ressemble. Mais je peux te dire, l'innovation est présente dans plusieurs aspects du design, du développement de l'avion. Okay? Oui. Puis, quand tu regardes l'industrie, excluant la période de COVID, là, on a développé ou mis en marché un produit, un avion par année, quand tu regardes les 10 dernières années. Là. Donc, ceci, c'est présent autant dans les ailes, que les ailes, tu as des ailes en composite, tu as des ailes en métal. Donc, il y a effectivement beaucoup de détails qui sont derrière que on ne voit pas. Il y a aussi les nouveaux moteurs, okay? De plus en plus des moteurs moins énergivores, des intérieurs de l'avion plus confortables. Okay? Différentes architectures de systèmes qui nous permettent de gérer un peu justement comment l'avion est soucieux de l'environnement.
Et tu me parlais aussi, quand on offline, là, de ces nouveaux avions avec les ailes et le fuselage mélangés ensemble. Est-ce que, moi, je vais revenir sur du temps où j'étais assis, entre guillemets, dans ton bureau. Hein, j'avais pas ton poste, mais je me souviens du prop fan qui avait pas réussi à trouver son public. Les gens aimaient pas, le public avait pas accepté ça. Penses-tu que cet avion du futur, cette aile volante du futur qui est plus économe en carburant, plus efficiente, va trouver son public, va trouver son, au niveau du public qui vole, hein, pas nécessairement au niveau des PDG et des acheteurs d'avions dans les compagnies aériennes?
Ah, effectivement, j'imagine, tu fais référence un peu comme, par exemple, à l'EcoJet que Bombardier a annoncé. C'est clair que le besoin du marché évolue beaucoup. Il y a le virage écologique qui a commencé. Donc, oui. Vraiment, on traverse une période très passionnante du point de vue. Tu prends l'EcoJet, c'est un avion déjà qui va changer un peu notre industrie quand on regarde d'ici les 5 à 15 prochaines années. Et puis, fuselage, quand on regarde ça, ça nous permet justement un avion où le fuselage et l'aile sont comme fusionnés. Ça nous permet énormément d'avoir des gains en termes de d'efficacité aérodynamique. Donc, autrement dit, on va consommer moins de carburant. Okay, pour faire marcher l'avion. Donc, et aussi, ça nous permet d'aller chercher l'impact, ça nous permet d'aller chercher un gain significatif, autant pour nos clients, mais pour les communautés. En termes, la coquille de l'avion, on va le plus loin possible du point de vue. Mm-hmm. Et puis aussi, les moteurs vont aller chercher l'autre partie. Puis ça, on a eu vraiment de beaux reportages là-dessus, justement ici au Canada, à Radio-Canada. Puis on est très fiers, c'est vraiment un belle aventure, autant pour les nos talents, la communauté. Puis tout ceci, juste pour ajouter là, la valeur ajoutée est vraiment significative, autant pour, on parle des clients, mais on parle aussi des passagers. Parce que tu rentres dans un avion, tu peux t'assurer que, écoute, les bons matériaux sont utilisés, on a moins d'empreintes environnementales, le confort et la performance et la douceur des vols.
Oui, et ça veut dire qu'il va falloir que je dise adieu à mon hublot.
Très bon point. Ça amène un peu un défi sur, justement, comment on pense les fenêtres de l'avion, les hublots.
Ouais,
okay? Ouais. Et puis, sous quels angles on les voit. Donc, c'est un peu tous ces détails que l'industrie, on va travailler dans les prochaines années. Mais c'est des défis qu'effectivement, qu'on doit faire face. On a les personnes très qualifiées aussi. On a de beaux talents qu'on essaie de recruter dans les universités, tout ça, qui vont participer à ça.
Écoute, tu fais une carrière en aéronautique depuis très longtemps. Est-ce que tu vois ces tendances d'innovation continuer à s'accélérer? Tu viens de nous dire que les besoins évoluent rapidement aussi. Et puis, quelles tendances innovantes tu vois vraiment prendre beaucoup de place ou qui vous préoccupent, vous, comme constructeur, par exemple?
Oui, absolument. Les tendances innovantes s'accélèrent à grands pas. Okay? C'est surtout relié au virage écologique qu'on a parlé tantôt.
Oui.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de bons exemples et qu'on a des carburants qui sont beaucoup plus soucieux de durables, qui réduisent les effets de gaz à effet de serre.
Oui.
Et aussi, l'aspect, notre vision est de pouvoir dans l'industrie, d'avoir de moins en moins de cimetières d'avions dans les déserts. Là. On voit mm-hmm. voit des photos un peu horribles. Il y a cet aspect. Et puis, on parlait tantôt de l'avion EcoJet de Bombardier. On parle aussi beaucoup de différents modes de carburant dans le futur moteur qui se travaille aussi beaucoup. Et on travaille aussi sur comment on peut simplifier nos architectures de système, comment on peut simplifier la configuration des sièges, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout matériau qu'on utilise dans l'avion, il y a un souci d'environnement et qu'il y ait moins d'impact autant pour nos passagers, mais que pour les clients, que tout le monde soit fier, les communautés soient fiers d'être dans des avions dans les quelques années là qui sont vraiment soucieux de l'environnement.
Vous parlez d'innovation au niveau des matériaux, au niveau de à plusieurs niveaux. Et comment est-ce que ça se traduit dans vos pratiques au quotidien? Est-ce que vous recrutez différemment? Est-ce que vous cherchez des compétences nouvelles? Est-ce que vous utilisez des approches différentes, des processus différents? Comment vous arrivez à faire vivre? Parce que innovation, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Hein? Dans mon temps, entre guillemets, on faisait la chasse au poids. Maintenant, vous courez après l'efficacité énergétique et d'autres éléments. Comment est-ce que vous le faites au quotidien? Comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous le vivez bien? Et puis, comment vous le faites?
Définitivement, c'est une bonne gestion de changement, pour autant pour nous, les constructeurs, mais aussi pour tous nos partenaires. Donc, du point de vue, au quotidien, on s'assure de plus en plus d'intégrer les nouveaux talents qu'on embauche. Les gens amènent naturellement comme employé, comme client, comme partenaire à la communauté, de très bonnes idées, étant donné tout le monde est soucieux de l'environnement, on converge beaucoup plus facilement maintenant avec les idées et les matériaux qu'on peut utiliser et aussi autant dans sur nos lignes de production, les gens puissent donner leur commentaires que tel matériau il peut avoir tel type d'émission avec les années. Donc, ça nous permet justement d'intégrer énormément de bons commentaires dès le début de nos designs. Et on déclare aussi une bonne pratique qu'on a dans l'industrie, puis Bombardier aussi leader là-dedans, c'est de déclarer tous les produits qu'on met dans l'avion pour justement aussi démontrer qu'on a un souci d'environnement pour chacun des matériaux qu'on introduit dans notre construction, depuis le design jusqu'à la fin de la vie de l'avion.
Donc, vos équipes de design sont pluridisciplinaires, alors que à l'époque où moi je faisais le CRJ200 chez toi, c'était vraiment l'apanage de la R&D qui faisait ça, entre guillemets, un peu tout seul dans leur coin. Donc là, il y a un peu d'input des clients, l'input des partenaires devient important et l'input aussi des gens de la production devient important.
Absolument.
Ouais, bravo. C'est un gros, gros changement par rapport à ce que je vivais. Parlons un peu de numérique aussi, dans justement ces aspects-là, du côté du design et du côté de la mise en production ou de la fabrication. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 30 ans quand j'y étais?
Des gros pas de géant. Okay? Je remarque que le numérique, ça nous aide à utiliser des ordinateurs plus puissants, plus rapides. Dans le temps, il y a quelques années, un nouveau programme, quand on le lançait, ça peut prendre 5 années, 6 années, 10 années. Aujourd'hui, avec le numérique, on arrive à prédire, à prédire par calcul les comportements de l'avion. Comment est-ce que telle géométrie de l'aile, tel type de moteur, comment ça peut affecter le comportement de l'avion, la distance, le décollage, le confort, tout ça? Déjà par ordinateur, ça nous permet de réduire significativement la durée de développement, la durée de création de l'avion.
Et dans ton quotidien à toi comme cadre supérieur chez Bombardier, qu'est-ce que le numérique fait concrètement? Est-ce que c'est un élément central dans tes préoccupations de management de tes équipes? Ou est-ce que c'est vraiment, ça reste encore un outil de productivité, comme un peu tu viens de le décrire? Comment toi, comme dans ton travail à toi?
Un exemple concret pour une partie de l'avion. On peut prendre l'aile, on peut prendre le cockpit, on peut prendre... C'est un peu. Donc, nos équipes, au jour le jour, c'est pas tant l'efficacité, c'est beaucoup plus de voir, évidemment, les solutions techniques possibles. Comment est-ce que ça peut nous permettre de dire, au lieu que je fabrique 4 prototypes pour le cockpit, comment est-ce que ces 4, au lieu physiquement de les fabriquer et de les tester, je m'organise pour qu'avec le numérique, les 4 prototypes, ça devient des prototypes virtuels. Et on valide nos scénarios. Et puis, on converge quand on va couper le métal en production. Ça devient un cockpit et non plusieurs configurations qu'on doit faire des itérations. Donc, ceci amène effectivement une belle synergie d'équipe, une belle intégration justement de plusieurs disciplines, justement dans le monde travaillant proche du point de vue... pour pouvoir justement, avec les différents talents, les nombreux talents qu'on a dans l'industrie et de nos partenaires, nos employés, pour pouvoir justement avoir cette configuration déjà au point avant d'aller en production.
Je vais revenir à ta question-là de partenaires aussi. C'est quelque chose à mon époque, on venait de commencer à travailler de cette façon-là. Mais avant, je veux parler un peu d'agilité en termes de management de projet, dans le développement de logiciels. C'est devenu normal, c'est la façon de faire. Et on me pose souvent la question, moi, est-ce que l'agilité, c'est pour moi? J'entends beaucoup parler d'agilité, blablabla. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec ces questions d'approche itérative et incrémentale de faire des projets ou de produire, d'amener des nouveaux produits ou des nouveaux services au marché? Où est-ce que c'est quelque chose que vous regardez d'un œil un peu distant?
Selon moi, c'est sûr que, sans faire de grandes théories là-dessus, selon moi, l'agilité, pour moi au quotidien, et puis pour nos organisations, puis mon organisation, c'est défini comme... C'est une adaptation pour nous, quotidienne, continue, tout en gardant le cap sur les stratégies long terme. Donc, aujourd'hui, on vit souvent en aéronautique, dans l'aviation, il y a beaucoup de réglementations qui évoluent, des problèmes en production, des problèmes en service, Donc, oui. Notre agilité, notre flexibilité, intégrer oui. tout ça au quotidien, à communiquer oui. efficacement au quotidien oui. et s'assurer oui. que le produit final est de, elle rencontre et dépasse les attentes du client. Donc, c'est souvent ça notre vision. Un bon exemple est que, du point de vue, on a des outils vraiment standards qui gardent nos employés engagés, qui gardent des équipes engagées, qui oui. ça tourne autour des rencontres quotidiennes, qui permettent justement de s'assurer que les enjeux, qu'on les intègre, qu'on les dans nos solutions, et aussi du point de vue aussi résolution de problèmes. On a des équipes oui. multidisciplinaires qu'on travaille ensemble justement du point de vue ouais. quotidien.
Je veux aussi te parler de cette arrivée de nouvelles technologies ou d'agilité, une nouvelle façon qui semble augmenter justement la multidisciplinarité, dans ton domaine. Autrement dit, ces cloisons-là ont tendance à s'effacer. Les gens d'aérodynamique travaillent mieux avec les gens de propulsion, travaillent mieux avec les méthodes, travaillent mieux avec tout ce monde-là. Comment vous le faites arriver, ça? Ça doit être un défi. Alors, à mon époque, c'était presque impossible. Ça doit être un défi quand même important.
Effectivement. Là-dessus, beaucoup de progrès. Nous faisons des pas des géants, justement, avec ce que moi j'appelle l'intégration de toutes les ouais. parties là pour pouvoir ouais. Faire marcher ouais. l'avion. Donc, on a des cycles de développement de produits de plus en plus courts et ouais. on a un souci de communication accru et puis garder les équipes engagées. Donc, ouais. ce que nous, dans un petit espace, comme on dit, on met les équipes ensemble. Souvent, notre vision est souvent de mettre les équipes ensemble très tôt, que ce soit des fournisseurs, que ce soit justement chacune des disciplines. C'est quand ouais. tu prends, par exemple, une partie de l'avion, tu as autant ouais. des gens qui travaille dans le filage électrique, la propulsion, l'avionique. Donc, quand tu t'assures qu'on a une solution qui intègre tous ces gens-là et puis on a des différents jalons qui nous permettent de s'assurer qu'on a une solution qui intègre chacune des particularités de ces fonctions-là pour que ouais. le produit ouais. final, ça rencontre nos et dépasse les exigences du client du point de vue équipe intégrée et du point de vue efficacité.
Et justement, quand on parlait de partenaires, alors juste pour nos auditeurs, je vais rappeler un peu le concept de partenaire. Mmh. Je pense que ça doit encore à peu près être à la même chose. Au lieu d'acheter des pièces sur le marché, on achetait des systèmes et on demandait à nos partenaires d'investir entre guillemets avec nous dans le projet. Et les relations avec ces partenaires là. Est-ce que leur maturité a évolué? Est-ce qu'il y en a qui sont plus innovants que d'autres? Moi, je me souviens qu'il y en a qui étaient prêts aux défis qu'on leur donnait d'élargir la palette des produits et services qu'ils nous offraient en termes de conception, en termes de réalisation de entre guillemets, des boîtes, comme tu dis, des différents équipements et de gestion de toute la configuration de toutes ces choses-là. Comment vois-tu leur capacité d'innovation, leur capacité d'adaptation évoluer? Est-ce qu'il y a encore des bons, des mauvais élèves ou tout le monde est arrivé à un bon niveau? Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant adopté par tout le monde?
Ouais, effectivement, très bon point. C'est certain que les fournisseurs et les partenaires, pour moi, c'est les partenaires.
Ouais, ouais.
Essentiel pour réussir nos programmes d'avion. Puis, aujourd'hui, en observation, nous pouvons être fiers d'avoir justement chacun des systèmes, des propriétaires de systèmes, grandes compétences, grande capacité de résoudre des problèmes. Donc, on a oui. de bonnes expertises. Et puis, il y a beaucoup plus avec la partenariat ouvert. On a beaucoup d'échanges de technologies. Et puis, il y a une vision de technologie continue avec des R&D. La façon de s'assurer justement qu'on garde, justement qu'on aille, qu'on converge tout avec une vision comme intégrée pour avoir un bon produit à la fin. Oui. On s'assure que à des phases critiques de l'avion, qu'on ait tous les partenaires, toutes les équipes ensemble.
Tout le monde ensemble. Oui.
Puis, okay. on a justement certains critères qu'on partage. On a l'espace et on se partage les espaces du point de vue comme ça, mm-hmm. ce que j'appellerais interface. Et puis, oui. nos partenaires, on garde relation de confiance, respect mutuel, discussion ouverte, oui. réunion quotidienne, comme je disais là,
oui. Oui.
s'assurer que nos critères de qualité de l'avion, nos critères d'efficacité du système, nos critères de rencontrer les réglementations,
oui.
tant pour production, pour service, pour le cycle de vie de l'avion, qu'on fasse des vérifications régulièrement à travers des jalons prédéfinis. Donc, on a des standards bien en place. Puis, le fait d'avoir cette collaboration, cette cohabitation à étapes et puis des revues, ça nous permet justement d'enrichir cette relation.
Et vous faites ça encore en physique, tout le monde au même endroit? Vous faites comme une grosse conférence de preliminary design ou de premier article, de revue de premier article? Comment? Ou c'est tout fait maintenant en virtuel sur Zoom ou sur Teams?
C'est hybride de plus en plus.
Ah ouais?
En mode, c'est certain que l'idéal dans les phases critiques où on doit faire beaucoup de remue-ménage et faire des concepts sur le tableau, essayer justement de lancer des idées et puis échanger. On s'assure que les équipes soient physiques sur place. Donc, on essaie de valoriser ça quand même beaucoup, le physique.
Ouais.
Okay? Mm-hmm. Point de vue efficacité. Et puis, justement, c'est passionnant aussi pour nos équipes, pour nos experts, pour nos talents, même pour développer nos jeunes, la relève, de vivre ça en direct avec les experts qu'on a. Donc, ça, c'est essentiel. Mais avant COVID, c'est sûr qu'on était la plupart sur place dans le même bâtiment ensemble.
Okay. D'accord.
Mais on peut être fier aujourd'hui que plusieurs des derniers programmes qu'on a annoncés, puis autant chez Boeing, chez Airbus, chez Bombardier, avec le Challenger 3500 ou le Global 8000, il y a beaucoup de choses qu'on fait en hybride. Puis, c'est des zooms, c'est des trucs là. Mais on s'assure quand même pour l'efficacité, pour le développement de nos gens, d'avoir un peu de physique.
Parlons aussi maintenant un peu d'excellence. Quel regard tu portes sur l'évolution des pratiques de management en génie ou en engineering ou en aéronautique ces dernières années? Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge vite? Est-ce que ça bouge bien?
Ça a beaucoup évolué. Si on dit on est dans un secteur qui est quand même très réglementé, les requis de sécurité sont quand même en constante évolution et puis aussi très, très essentiel pour nous. C'est notre priorité numéro un.
Oui.
On se sert beaucoup, je parlais tantôt, de nos vraiment communications ouvertes, quotidiennes, efficaces, qui permet de s'assurer que les décisions se prennent avec des faits. Donc, on ramasse les faits, on va aller voir le problème et on s'assure qu'on est connecté à la base le plus possible. Prendre la décision. Et puis, l'information sur base quotidienne circule de bas en haut et de haut en bas pour justement, et puis ça nous garde aussi quand même un mode de décision axé sur les faits, axé aussi sur la collaboration et aussi sur l'engagement, le développement des gens. Parce que les problèmes, c'est souvent de belles opportunités pour nous, là, et puis dans l'industrie, et puis ça nous permet justement de continuer à améliorer autant améliorer comme professionnel et aussi s'assurer qu'on continue d'avoir notre culture sur les enjeux, culture client, garder un focus sur les employés et s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas gêner de parler des problèmes.
Ouais. C'est l'authenticité. Les jeunes ingénieurs qui arrivent chez vous aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bons à se décloisonner puis à prendre la parole, puis à s'exprimer, à faire remonter ou à chercher des solutions auprès de leurs pairs dans d'autres services aux besoins? Est-ce qu'ils sont meilleurs que nous? On avait tendance, nous, à rester très, très dans notre silo et aller vers le haut.
Personnellement, je dirais qu'ils sont meilleurs que nous.
Ouais.
Aujourd'hui, avec la technologie, ils sont très vocales sur leurs besoins, ce qu'ils ressentent. Donc, l'ouverture est vraiment présente, rapide. Donc, ça nous permet évidemment de les intégrer plus vite et puis aussi d'être à l'écoute. C'est ça qu'on doit faire de plus en plus, là, comme expert, comme personne senior dans les organisations. On écoute justement ça parce que ça apporte une belle valeur. Donc, on voit vraiment une authenticité qui se met très bien en place.
Pour terminer maintenant sur ce sujet de l'excellence, est-ce qu'on parle de Six Sigma, de Lean ou d'amélioration continue chez vous, dans ton entourage?
On parle d'amélioration continue, définitivement, tous les jours. Okay? Puis, nous, le problème, c'est souvent des opportunités pour améliorer nos processus. Et puis, voir aussi si on a des situations où on peut bonifier le produit, qu'on peut bonifier les règles, on peut s'assurer qu'on simplifie un peu l'impact pour nos gens en production. Donc, définitivement, c'est une volonté quotidienne pour nous à travers les discussions, à travers les résolutions aux problèmes. On a toujours un volet qui se traduit en qu'est-ce qu'on améliore pour le futur?
Ça me rappelle un patron qui me disait « parle-moi pas de problème, parle-moi de solution ». Mais c'est intéressant de voir que c'est devenu c'est un problème, oui, c'est une opportunité. Et c'est drôle, hein, c'est un peu comme ce que j'enseigne aussi, hein, un problème, c'est une opportunité de clarifier certaines choses et d'aller au fond de certaines choses.
Absolument.
Comme ingénieur, d'un ingénieur à l'autre ou d'un ex-ingénieur à l'autre vers toi, la pratique du génie, comment tu la vois évoluer hein, dans les prochaines années?
On a parlé d'équipe multidisciplinaire. On a parlé d'intégration.
Ouais.
On a parlé de maximiser l'utilisation de la technologie pour pouvoir nous permettre d'avoir vraiment des solutions simples qui peuvent être qui reflètent un peu les commentaires et puis l'expertise de toutes les équipes en équipe, mais et vraiment connecté sur du concret qu'on peut tout de suite quand on rentre en production. C'est pas il n'y a pas de barrière entre la personne qui assemble, qui fait le travail en production, la personne qui le conçoit et la personne aussi qui le traduit, qui est entre les deux, qui le traduit comme un idée, un document de production.
Ouais.
Donc, je vois que l'ingénieur doit être quelqu'un de terrain et quelqu'un qui doit aussi continuer de s'améliorer. Et puis, j'y crois beaucoup là, continuer de s'améliorer quotidiennement à travers justement les différents enjeux et à être vraiment proche de la production.
Donc, ça veut dire que tu arrives plus facilement que moi à une certaine époque de sortir les ingénieurs de leur bureau d'études et puis de les descendre sur le plancher de production, leur montrer qu'est-ce qui se passe avec les telle ou telle chose et puis les aider, qu'ils viennent nous aider à résoudre ces problèmes complexes.
Absolument, absolument.
Ouais.
Ça fait partie
c'est une bonne nouvelle.
De notre vision, là. Problème, on va aller voir. On apprend beaucoup. Puis c'est définitivement. Puis on converge encore plus vite dans la solution. Le temps d'arriver à une solution. Puis ça garde aussi les équipes vraiment ensemble du point de vue multidisciplinarité et puis communication.
Ouais, je me rappelle d'un week-end passé en dessous d'un Learjet 45 à modéliser une ligne hydraulique pour essayer de la faire passer pour ensuite. C'était conçu en quelque part, c'était fabriqué ailleurs et puis enfin, on a eu beaucoup de plaisir. Et c'est bien de voir que ce genre de comportement-là soit vraiment maintenant rentré dans la culture de l'entreprise. Un dernier message ou un conseil pour ceux qui nous écoutent, qui soient des dirigeants, des collaborateurs, un jeune manager qui vient de prendre son premier poste de superviseur ou un étudiant en génie ou en management qui nous écoute ou qui sont curieux, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, hein? Parce que tu as eu une très belle progression, une très belle carrière dans un secteur qui est complexe et pas toujours facile.
Au quotidien, mon approche, ne laissons jamais personne derrière. Okay? Donc, concrètement, c'est qu'on puisse continuer à être à l'écoute active de tous nos talents, de différents horizons, de nos clients, partenaires, tout ça, pour justement, et de la diversité aussi, ce qui amène aussi beaucoup de valeur de plus en plus dans les organisations. Puis ça va juste nous permettre d'avoir encore des stratégies et de la réussite plus grande.
Merci beaucoup, Martial, d'avoir pris le temps de venir nous parler de vos défis dans le secteur aéronautique sur notre podcast. Je te remercie infiniment.
Merci beaucoup, Jean-François et toute l'équipe du podcast. C'est avec plaisir là, que je vous écoute et c'est formidable ce que vous faites pour vulgariser pour nous tous, là, pour nous permettre de continuer à apprendre.
Merci. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Tout d'abord, je suis frappé par certaines similitudes entre les discours de Frédéric Rousseau, à l'épisode précédent, et celui de Martial Missioun que nous venons d'écouter. Le produit doit non seulement être accepté par l'acheteur, le maître d'ouvrage pour Frédéric, ou la compagnie aérienne ou l'entreprise pour Martial, mais aussi par les usagers et les communautés qui vivent avec ces objets au quotidien. Je suis moins surpris que le numérique serve surtout à faire des maquettes et des essais virtuels chez Martial, mais plus surpris qu'il permette surtout une meilleure collaboration intermétier. Le numérique au service de la transversalité, je vais devoir continuer à creuser ces aspects. L'agilité, surtout comme amélioration continue, voilà en fait sa véritable origine, et le Lean fait enfin partie des meubles, selon ce que Martial nous dit, alors qu'il y a 25 ans, c'était encore tout nouveau. J'en profite pour mettre « The Machine That Changed the World » dans les notes. C'était la bible du Lean quand, en tant que consultant, nous tentions de vendre ces approches à nos clients à la fin du 20e siècle. Et finalement, que l'ère de l'interdisciplinarité,
au moins du côté technique, semble être bel et bien arrivé. Les concepteurs et les fabricants travaillant main dans la main, c'est de mon point de vue une très très belle évolution. Moins de tours d'ivoire, plus de respect pour les métiers dans toute leur diversité et leur complexité. Je vous invite à visiter notre site internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode86. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et finalement, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur notre site internet afin de rester au fait de nos communications et de nos dernières mises à jour. Bonne semaine!